Good Morning Business, le grand entretien.
Et notre grand entretien aujourd'hui, c'est Thierry Hulot. Bonjour, PDG Bonjour. De Merck et président du LEM. Vous avez fait vos vœux hier et à vous écouter, on a l'impression que sur le marché du médicament, il faut tout changer, revoir le modèle économique de A à Z. C'est un chantier titanesque.
Alors oui, c'est un chantier titanesque et je crois que nous devons conduire ce chantier pour protéger la santé de nos concitoyens et garantir que les patients français, quand ils ont besoin d'un médicament, que ce médicament soit un médicament essentiel, déjà établi, ils y aient accès, que ce médicament soit une innovation de rupture, ils y aient accès. Et quand on voit l'économie régulée du médicament en France aujourd'hui, on ne pourra pas garantir ça à l'avenir. Et on le voit avec les ruptures multiples que vous avez rapportées ces derniers jours.
C'est uniquement une question de prix ?
Pas uniquement, mais le prix est un facteur essentiel. Laissez-moi vous donner un exemple. On parle tous des ruptures d'amoxicilline pour le traitement pédiatrique.
Antibiotiques. Largement utilisées.
Tout à fait. Moi, de vocation, je suis pharmacien. Je me lève le matin pour quand un patient ait besoin de son traitement, il l'est. Et quand je vois des parents qui, dans une pharmacie, ne trouvent pas ce traitement essentiel, je suis juste inquiet, révolté. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on constate ? C'est un traitement qui est vendu 76 centimes d'euros. C'est moins qu'une baguette de pain. Comment fait un producteur, un industriel, dans le contexte hyper-inflationniste dans lequel on est, pour s'y retrouver, pour avoir une marge ?
Sauf qu'il y a des règles très précises en France qui encadrent le prix du médicament. Ça veut dire qu'il faut changer ce plafond, ce fonctionnement ?
Ben, il faut le faire évoluer. On est dans une économie, vous venez de le dire, où le prix est administré par la puissance publique. C'est bien, mais il faut faire ça de manière, j'allais dire, raisonnable.
C'est-à-dire, si vous libérez le prix, par exemple, de l'amoxicilline, c'est une hausse de combien ?
Mais je ne sais pas s'il s'agit de libérer le prix. Ce que je constate, c'est au mois d'avril dernier, ça fait quoi, 9 mois, nous avons alerté le gouvernement, la puissance publique, sur le risque d'hyperinflation et les conséquences que ça aurait sur la production des médicaments. 9 mois après, toujours pas de réponse. Et en même temps, vous l'avez rapporté hier, en Allemagne, qu'est-ce qu'on voit ? Pour les 300 molécules essentielles, où les prix sont déjà, en moyenne, 20 à 30% supérieurs à la France, ils viennent d'annoncer qu'ils allaient augmenter les prix de ces molécules-là de 50%.
À vous entendre avec ce débat sur le prix, est-ce qu'il faut se résoudre à ce que les pays qui payent le plus aient accès en priorité aux médicaments ? C'est un peu ce qui s'est passé au début du vaccin contre la Covid-19.
La question, c'est pas les pays qui payent le plus. Mon propos est absolument pas là. Mon propos est de dire, quand vous avez un traitement essentiel à 76 centimes d'euros, tout le monde comprendra qu'avec les normes de qualité, les normes environnementales, tous les contrôles multiples, toute la sécurité qu'on veut autour, il n'y a plus de marge.
Je réitère néanmoins ma question. Est-ce qu'il n'y a pas déjà, de fait, une sélection par le prix ?
Je ne crois pas qu'il y ait une sélection par le prix. Les entreprises du médicament que je représente en France sont mobilisées sur l'accès des médicaments aux patients français. Et laissez-moi vous dire quelque chose, parce que c'est fondamental. Je pense que nous devons à nos concitoyens la transparence. La transparence sur les faits et sur la situation. C'est pourquoi j'annoncerai tout à l'heure, lors de mes vœux, que nous allons mettre en place un baromètre de l'accès aux médicaments. Qu'est-ce que j'entends par là ? Nous publierons tous les trimestres pour tout médicament qui a des difficultés d'accès, qui a des ruptures en France, la situation en France versus les pays européens. Pour toutes les innovations thérapeutiques, lesquelles ont été lancées en Europe et quelle est la situation en France.
C'est pas pour les Français, ça c'est pour le gouvernement, c'est pour mettre la pression.
Non, c'est pour qu'on soit tous bien conscients, c'est pas une question de pression. Ce qui me motive, c'est que chacun puisse avoir son traitement quand il en a besoin. Et on va s'en donner les moyens en communiquant, en étant pédagogique et en montrant que quand on gère de manière comptable l'économie du médicament, c'est une perte de chance pour les patients.
Oui, mais qu'est-ce que vous allez dire aux gens ? Allez dans un autre pays européen pour chercher le médicament dont vous avez besoin ?
Nous allons tous nous mobiliser, nous allons dialoguer avec les pouvoirs publics et avec le gouvernement pour réfléchir à quelles sont les nouvelles règles qu'il faut mettre en place pour financer et réguler le médicament demain.
Le marché français est totalement déconnecté du reste du monde. Vous avez l'impression qu'il y a une spécificité qui ne fonctionne pas. Vous dites que ça fait 9 mois qu'on a écrit un rapport, c'est lettre morte. Il y a un problème de priorité au gouvernement ?
On l'a vu lors du vote de la loi de financement de la sécurité sociale, le fameux LFSS 2023. Il y avait une contrainte budgétaire très forte et très forte sur le médicament. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Le budget de la sécurité sociale pour le médicament pour l'année qui commence a été fixé à 24,6 milliards d'euros. La dépense réelle va être d'environ 28. La différence entre les deux, l'industrie pharmaceutique va en rembourser 70%. Ça va être pris sur la marge, ou ce qui reste de marge, des petits producteurs, des PME, de tous les labos. Donc, c'est désincitatif. Ceci dit, que faisons-nous en 2023 ? En 2023, je vois deux priorités pour le médicament. Un, c'est adresser les problèmes de rupture qu'on connaît aujourd'hui. Et on le voit, les industriels sont mobilisés.
Ils produisent, on a vu des productions de Doliprane
exceptionnelles, historiques. Je pense qu'on peut remercier les collaborateurs dans les usines qui sont mobilisés, qui travaillent en 3, 8, 7 jours sur 7. Et en effet, des productions historiques. Mais il faut aller au-delà d'éteindre l'incendie. Il faut tous se mettre autour de la table pour repenser le financement et la régulation du médicament. La bonne nouvelle, c'est que la Première ministre, Elisabeth Borne, m'a écrit il y a quelques semaines en annonçant qu'elle allait mettre en place une commission interministérielle pour se pencher sur ce problème. Soyez certains que les entreprises du médicament seront au rendez-vous, seront force de proposition, parce qu'il y a urgence si nous voulons demain avoir nos médicaments essentiels et les innovations de rupture qui arrivent. N'oublions pas, de nombreuses innovations arrivent, de nombreuses pathologies ont besoin de traitements innovants, et là aussi, il faut les financer.
Est-ce que relocaliser la production en France ou en Europe, ce serait une réponse, à votre avis, au problème de pénurie ? Est-ce que c'est réaliste de vouloir produire l'essentiel des médicaments, en tout cas les plus courants, en France ou en Europe ?
Alors, je vais dire quelque chose d'un peu difficile à entendre, mais la souveraineté de la France toute seule, j'y crois pas une seconde. Une souveraineté européenne, oui, mais quelque part encadrée. Qu'est-ce que j'entends par là ? Il y a 12 000 spécialités pharmaceutiques. On va pas construire en France des usines pour 12 000 spécialités pharmaceutiques. Il n'y a pas de modèle pour ça. Dans ces 12 000 spécialités, il y en a très probablement 2 à 300 qui sont essentielles, qui sont stratégiques. Qu'est-ce que j'appelle une spécialité stratégique ? C'est si elle n'est pas présente, la vie du patient est potentiellement un risque ou sa santé va se dégrader immédiatement de manière irrémédiable. On attend depuis des mois que la Commission européenne, le gouvernement, établissent cette liste et mettent un plan clair d'action. Elle est là, l'urgence. C'est mettons-nous autour de la table.
Et c'est un plan européen du médicament.
Mais ça, c'est obligatoirement européen. Mais
sauf qu'on n'a pas deux pays qui ont les mêmes règles. On vient d'en parler.
Alors, oui et non. On voit quand même, au moment de la crise de la Covid, qu'il y a une coordination européenne sur la gestion des stocks, des approvisionnements, des achats. On peut aller plus loin et se dire quels sont les médicaments qu'on veut vraiment sécuriser en Europe, comment on le fait, et dans ce contexte, la France peut être clé. On a les compétences, on a les collaborateurs, on a le savoir-faire, on a la volonté de le faire. Donc, mettons-nous autour de la table et allons-y.
Produire en Europe, ça veut dire aussi produire plus cher par rapport à certains pays émergents. Est-ce qu'on va pouvoir produire en Europe sans relever le prix du médicament ? On en revient à ce qu'on disait au départ.
Mais il faudra relever le prix de certains médicaments. Mais j'en reviens encore, quand il est à 78 centimes d'euros, ça ne mettra pas en péril les comptes de la nation.
Est-ce qu'il faut toucher à la clause de sauvegarde ? Ça, c'est une spécificité qui plafonne le chiffre d'affaires des laboratoires. Qu'est-ce qu'on fait avec cette clause ?
Ce n'est pas la clause de sauvegarde auquel il faut toucher. C'est être très clair en se disant, est-ce que l'on veut financer le médicament à hauteur de la demande de nos concitoyens ? La clause de sauvegarde, c'est un impôt supplémentaire qui vient peser sur l'industrie pharmaceutique, qui nuit à l'attractivité de la France et à la sécurisation des approvisionnements.
À vous entendre, ce n'est pas très positif quand même.
Mais je ne suis pas positif, je suis inquiet. Je suis inquiet et avec les entreprises du médicament, nous sommes mobilisés pour alerter les pouvoirs publics, pour travailler avec eux, pour être porteurs de solutions. La question n'est pas, mon inquiétude, c'est très bien, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on avance. Nous sommes là, mobilisés pour dialoguer, pour construire, pour trouver des solutions dans l'urgence sur les ruptures et dans la durée pour que cela ne se reproduise pas demain et que les patients français aient accès légitimement aux produits essentiels et aux innovations thérapeutiques.
Les médecins sont mécontents, les soignants sont mécontents. Et pourtant, la France dépense énormément d'argent pour sa santé. Qu'est-ce qui se passe ? On dépense beaucoup d'argent et tout le monde a l'impression d'être le parent pauvre de la médecine, vous compris.
Alors, je crois qu'il y a une spécificité française qui est notre système de santé dont on est très fier, qui est remarquable dans le sens de la protection de chacun des citoyens. Nous sommes dans un système où vous êtes pris en charge sans qu'on vous demande votre carte bleue.
Mais à entendre les médecins hospitaliers, ce système, il est à bout de souffle. Mais
parce que ce système a besoin, comme tout système, d'évoluer, d'être réformé, en effet pour l'hôpital, en effet pour le médecin, en effet pour le médicament. Il faut remettre à plat ce qui a besoin d'être mis à plat pour garantir que ce système continue et perdure.
Merci beaucoup Thierry Hulot. On peut vous souhaiter pour 2023 d'être entendu du coup par les pouvoirs publics. Oui, vous voulez rajouter.
On peut nous le souhaiter.
Bah, je vous le
parce
souhaite.
Que c'est l'intérêt à tous pour notre santé et croyez-moi, nous serons mobilisés sur ce sujet.